Vous êtes sur RTL.
9h.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, une messe de Pâques pas très Covido-compatible.
Des fidèles agglutinés et sans masque à Paris, enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Troisième jour de bug informatique pour les élèves obligés de faire l'école à distance. Mais qui se cache derrière ces cyberattaques? Un projet de loi et près de 4000 amendements. Le débat sur la fin de vie rendu impossible. Et puis partout Tatis, Astérix et Obélix, bientôt de retour avec un casting 5 étoiles.
Cavanix. Ah non, Ibrahimovic.
Ibrahimovic.
RTL Soir.
Deux hommes d'église en garde à vue après la messe de Pâques sans respect des gestes barrières dimanche à Paris. Un prêtre et un ecclésiastique de la paroisse Sainte-Eugène-Sainte-Cécile. Une messe de 4 heures sans masque, des fidèles agglutinés en pleine pandémie. Alice Moreno, les faits reprochés sont très sérieux.
Absolument, ils sont poursuivis pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, un délit qui peut être puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Mais pour l'heure, les interrogatoires débutent tout juste. Les deux hommes, un prêtre et un vicaire de cette paroisse du 9e arrondissement de Paris, sont soupçonnés d'être les organisateurs de la cérémonie. Sur des images de la messe diffusées sur le site du Parisien, outre le non-port du masque et la foule, on voit des hommes d'église donner l'hostie directement dans la bouche des fidèles, des scènes de baptême où l'eau est utilisée pour plusieurs personnes, autant de rites extrêmement propices à la contamination. Et les croyants qui participent à l'office semblent pour la plupart particulièrement âgés. Le danger de mort est donc bien réel. Outre l'enquête judiciaire en cours, le diocèse de Paris s'est dit stupéfait devant le non-respect évident des consignes essentielles de distanciation et de port de masque et a ouvert une procédure canonique contre le curé de la paroisse.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL, l'archevêque de Paris, donc, qui a ouvert cette procédure en vue de sanctions au sein même de l'Église.
Après le cuisinier Christophe Leroy, dont l'avocat ce soir répète qu'il n'a jamais servi un repas à un ministre, une perquisition a eu lieu au domicile de Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du Palais Vivienne. Pierre-Jean Chalençon soupçonné d'avoir organisé des dîners clandestins luxueux après les révélations des journalistes d'M6.
Troisième jour d'école à la maison et troisième jour d'enfer pour les élèves. Encore de gros problèmes de connexion sur la plateforme du CNED. Le ministère de l'Éducation avance une troisième série de cyberattaques. Concrètement, Sophie Jousselin, qu'en disent les experts et qui pourrait se cacher derrière ces attaques informatiques?
Alors en général, quand on parle de cyberattaques venues de l'étranger, on pense soit à un État voulant nuire à un autre ou à des escrocs qui bloquent un site et demandent une rançon pour le débloquer. On n'est de toute évidence pas devant ce genre de pratiques. Ces attaques sont plus certainement le fait de petits malins, bidouilleurs à leurs heures perdues, qui ont voulu bloquer le site du CNED, soit pour ne pas suivre les cours à distance, soit pour embêter le gouvernement. Et ce n'est pas si compliqué. Jérôme Billois, spécialiste cybersécurité chez Wavestone.
Réaliser une attaque par saturation d'un site web, c'est-à-dire qu'on va essayer de se connecter plein de fois dessus pour finalement épuiser les forces du serveur et faire qu'il ne marche plus, c'est une attaque assez simple. Vous pouvez acheter ce type d'attaque sur des plateformes évidemment liées à du marché noir cybercriminel. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros, vous pouvez lancer une attaque juste en indiquant le site web que vous souhaitez attaquer. Et puis derrière, c'est le groupe de cybercriminels en question qui vont s'occuper de réaliser l'attaque pour vous.
Il existe bien sûr des systèmes de sécurité contre ce genre d'attaque. On ne sait pas quel type de protection est activé sur le site du CNED.
Merci à vous Sophie Jousselin pour ces explications. Sur le front de l'épidémie, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, parle de signes encourageants dans les 16 premiers départements soumis à des restrictions. Le taux d'incidence et le taux de positivité des tests commencent à baisser. En revanche, le nombre de patients en réanimation risque encore d'augmenter dans les prochaines semaines, selon le gouvernement.
Et puis autre chiffre, le cap des 10 millions de Français vaccinés a été franchi aujourd'hui. Ne manquez pas demain Olivier Véran, le ministre de la Santé. Il sera l'invité d'Alba Ventura à 7h40 dans la matinale d'Yves Calvi. Il répondra ensuite directement à vos questions à partir de 8h20. Questions que vous pourrez lui poser en appelant le 3210.
Malgré la pandémie, les centres de finances publiques restent ouverts. Vous pouvez dès aujourd'hui remplir, corriger votre déclaration de revenus en ligne ou sur papier avec une version simplifiée. Cette année, tout est déjà pré-rempli. Quelques changements à noter, Éric Vanier.
Oui, une déclaration automatique qui va simplifier la vie d'à peu près 12 millions de foyers fiscaux qui n'auront quasiment rien à faire car le fisc sait déjà tout sur eux. Ils n'auront qu'à vérifier l'exactitude des cases pré-remplies et s'ils ne trouvent rien à redire, la validation se fera automatiquement. Pour les autres, ne tardez pas trop. En version papier, retour du formulaire dans un peu plus d'un mois, au plus tard le jeudi 20 mai à minuit. Si vous télédéclarez déclarer sur impots.gouv.fr, date butoir le 26 mai si vous habitez dans les départements de 1 à 19, le 1er juin si vous résidez dans les départements qui vont de 20 à 54, et le 8 juin pour les autres départements. Attention de ne pas passer à côté des exonérations liées à la crise actuelle, prime Covid, prime Macron, prime télétravail, ne pas les déclarer, fonds de solidarité et heures supplémentaires à déduire de son revenu imposable.
Les explications d'Éric Vanier pour RTL. Roselyne Bachelot donne de ses nouvelles sur Twitter. Premier message en 2 semaines, la ministre de la Culture dit reprendre des forces chaque jour après sa sortie de l'hôpital pour Covid. Elle remercie au passage les soignants qui partout en France font un travail remarquable.
Il a fait moins 6 degrés, moins 6 la nuit dernière dans les Alpes de Haute-Provence et en plein mois d'avril, forcément, ça pose problème.
Situation catastrophique pour les arboriculteurs à Sisteron. Ils découvrent depuis ce matin l'étendue des dégâts après cet épisode de gel. Étienne Baudu, vous avez parcouru les vergers avec eux.
Oui, Jérémy Liotti, elle est très tirée. Il n'a pas dormi la nuit dernière et il a passé sa journée à inspecter ses parcelles de pommiers et de poiriers. Premier constat, certaines feuilles se sont recroquevillées, brunies sur les bords. Le rose de certains pétales des pommiers à peine éclos a viré au marron. Ce n'est pas bon signe. Jérémy sort son couteau, il coupe les fleurs à leur base.
Un bouton donne 5 fleurs et potentiellement chaque fleur va donner un fruit. Et donc là on coupe, quand on voit qu'on coupe et qu'on voit du marron à l'intérieur au centre, on sait que c'est gelé ça. Donc là, premier fruit gelé, deuxième fruit il est sain parce qu'il est resté vert, troisième fruit gelé, quatrième, donc c'est la centrale, c'est celle qui est toujours la plus en avance du bouquet, gelé, et cinquième et dernier fruit gelé aussi. Donc là on a un fruit qui est sauvé sur 5.
Et encore heureusement que l'aspersion qui recouvre les arbres d'un cocon de glace a fonctionné la nuit dernière, sinon il le sait, il n'aurait rien pu en tirer. Mais Jérémy le devine, la production sera désastreuse.
On avait pourtant une très belle floraison, alors on était bien parti pour réaliser nos 45 tonnes hectares, ben là on sait qu'on n'y arrivera pas. On perd plus de la moitié de la production, là. On perd les 3/4 voire plus.
Et il faudra encore attendre un mois pour connaître les prévisions définitives.
Reportage d'Étienne Baudu à Sisteron pour RTL. Petite pause dans un instant. Felena, adieu l'École nationale d'administration. Elle va disparaître au moins sur la forme.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
19h09, suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Ne l'appelez donc plus l'ENA, mais l'ISP pour
Institut de Service Public.
C'est ça, l'école de la haute fonction publique se transforme donc.
Promesse d'Emmanuel Macron après la crise des Gilets jaunes pour tenter de réparer, je cite, l'ascenseur social. Un nouveau nom, une voie d'entrée pour les candidats issus de milieux modestes et plus de terrain. Des changements à la fois symboliques mais aussi concrets qui questionnent les futurs candidats. Juliette est en pleine préparation du concours d'entrée.
On est dans une incertitude un peu totale et on ne sait pas vraiment ce vers quoi on se dirige. Donc quand j'ai vu ça ce matin, un petit peu surprise. Forcément, la préparation des concours, ça demande quand même un investissement personnel très important, un investissement financier aussi. J'ai commencé à peu près en janvier 2020, donc ça va bientôt faire un an et demi. Donc forcément, ce n'est pas toujours très facile à entendre comme nouvelle. C'est forcément difficile de se projeter dans un concours qui demande un tel investissement quand on ne sait pas du tout en fait, ce vers quoi on se dirige, quel sera le statut de l'école, si elle existera encore. Est-ce que c'est juste un effet d'annonce et qu'on va juste changer le nom de l'école? Au moins, qu'on soit fixé, quoi.
Propos recueillis par Juliette Jay pour RTL. Le débat sur la fin de vie obstruée par près de 4000 amendements, c'est ce qu'a dénoncé le député Olivier Falorni, auteur du texte. Les 2/3 déposés par 5 députés Les Républicains rendant impossible le vote avant minuit ce soir. Ambiance électrique à l'Assemblée, Jacques Serret.
Oui, depuis 3 heures maintenant, c'est un hémicycle qui se lève, qui applaudit, mais surtout qui vocifère. Une majorité de députés de droite comme de gauche ne cesse de pointer du doigt ces 5 parlementaires.
Je veux dire à ceux qui veulent bloquer le débat parlementaire que c'est pas bien. Et je leur dis les yeux dans les yeux.
Nous nous retrouvons face à une violente obstruction menée par une petite minorité de députés. Aujourd'hui, nous renvoyons le pire.
En face, amendement après amendement, ces députés, les Républicains comme Xavier Breton, défendent leur point de vue.
Si vous vous retrouvez sur un pont et que vous voyez quelqu'un qui est sur le parapet du pont en disant « j'en ai marre de la vie, je vais me jeter à l'eau », qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans l'éthique de l'autonomie en pensant que chacun fait ce qu'il veut et vous le poussez?
Au centre, l'exécutif se garde bien de toute prise de position. Olivier Véran, ministre de la Santé, en appelle à la sagesse de chacune et chacun.
Peut-on aller plus loin? C'est possible. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est souhaitable? C'est tout l'enjeu de votre débat.
Mais le débat devrait finir dans une impasse ce soir à minuit, heure limite de cette niche parlementaire.
Jacques Serret en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. Une autre proposition de loi a, elle, été adoptée contre l'avis du gouvernement. Un texte pour protéger et promouvoir les langues régionales. Impossible pour les députés bretons de ne pas pousser la chansonnette pour célébrer la nouvelle. Chanson sur les marches du Palais Bourbon, chanson très symbolique, souvent considérée comme l'hymne breton. Brogoz Mazadou, le vieux pays de mes ancêtres, pardon d'avance hein, au breton pour mon accent.
Et Jean Lassalle, il n'a rien chanté du coup.
Ah, il était pas loin.
Ah, il était pas loin, mais c'est pas sa région. On détend l'atmosphère avec un tournage imminent. Le cinquième film des aventures d'Astérix et Obélix, il s'appellera L'Empire du Milieu.
Avec un casting impressionnant. Bonsoir Stéphane Boutsock.
Bonsoir à tous.
Entre les stars du grand écran et les invités inattendus, Guillaume Canet, le réalisateur, a mis la barre très très haut.
Oui, c'est lui qui va jouer le rôle d'Astérix aux côtés de Gilles Lelouch en Obélix pour entourer ce duo. En effet, un générique hallucinant. Marion Cotillard sera Cléopâtre, Vincent Cassel César, Pierre Richard jouera le druide Panoramix, Philippe Catherine vocalisera façon Asturance Tourix le Bard, même si c'est Mathieu Chédid qui va composer la bande originale. Notez que la chanteuse Angèle et le rappeur Aurel San seront aussi de la partie, tout comme Audrey Lamy, José Garcia, Manu Payet, Ramzi Bedia, Jérôme Commandeur, Franck Gastambide, Jonathan Cohen, les youtubeurs McFly et Carlito et même le footballeur Zlatan Ibrahimovic dans la peau d'un guerrier qui s'appelle Antivirus parce qu'il est indépassable au combat.
Stéphane, il n'en fallait pas moins pour un projet colossal de 60 millions d'euros.
Ouais, c'est le plus gros budget du cinéma français depuis des années. Le film est basé sur un scénario original écrit par les auteurs des Tuches, revu et corrigé avec Guillaume Canet durant le premier confinement, puisqu'à l'origine, L'Empire du Milieu, comme son titre l'indique, devait se tourner en partie en Chine au printemps 2020. L'idée, c'est de garder le ton de la comédie, bien sûr, mais en y ajoutant une vraie dimension de film d'aventure, des batailles épiques, des effets spéciaux. Le tournage fera escale en Auvergne et au Maroc, mais des décors gigantesques finissent d'être construits au studio de Brie-sur-Marne près de Paris, où l'on élabore aussi des centaines de costumes. Seul inconnu, la date de sortie,
ah oui.
2022-2023, ça, c'est pas encore tranché.
Bon, les cinémas auront rouvert, Stéphane, d'ici là.
Oh bah j'espère bien, on va croiser tous nos doigts. Oui, oui.
Merci beaucoup, merci Stéphane Boutsock. Pardon. Les sports, il y a du foot ce soir. Alors, c'est plus la Ligue des Champions, c'est la Coupe de France, l'affiche est quasiment aussi alléchante.
Suite et fin des huitièmes de finale avec le Red Star qui affronte l'Olympique Lyonnais. Baptiste Durieux, le coup d'envoi a été donné il y a une dizaine de minutes maintenant.
Exactement, 13 minutes de jeu. Effectivement, c'est pas la Ligue des Champions, mais l'affiche est alléchante. Thomas a raison. Le Red Star qui est quand même sorti d'un exploit retentissant face au Racing Club de Lens et qui se confronte aujourd'hui à un autre cador de Ligue 1, c'est l'Olympique Lyonnais qui est sous pression. C'est Rudy Garcia qui l'a dit, l'état d'esprit n'est pas bon. Ce sont les propos de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, 0-0, 13 minutes de jeu et l'Olympique Lyonnais qui, sans surprise, domine pour l'instant ce début de match.
Baptiste, vous connaissez le principe, il y a un but, vous nous appelez, ok?
Absolument.
Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Merci à vous, Baptiste Durieux.
On a fini ?
Eh oui !
Eh bon, on va passer à la météo alors.
J'enchaîne direct, c'est ça ?
Comment ?
Non, pardon. J'attendais que vous me lanciez, mais j'allais dire.
Je vous lance tout de suite, regardez. Peggy Broche pour la météo.
Allez,
alors, Peggy, il ne va pas faire très très beau.
Bah, si, je crois qu'on va. Retour des nuages, en effet, par l'ouest demain. Donc, si vous êtes au nord et à l'est, ça ira bien pour vous. Vous conserverez un temps sec et plus lumineux qu'ailleurs, même si le ciel sera légèrement voilé. Par contre, la perturbation, elle va arriver par la Bretagne le matin avec un ciel chargé mais sec, un ciel souvent nuageux avec quelques averses entre l'Aquitaine et le centre en matinée et de nombreuses entrées maritimes toute la journée sur le golfe du Lion en remontant jusqu'au sud du massif central. Ça veut dire des nuages, quelques faibles pluies et beaucoup de vent. Ailleurs en journée, la perturbation va concerner non seulement la Bretagne mais aussi les pays de la Loire avec de faibles pluies. Et puis, le temps sera de plus en plus nuageux avec des averses plus fréquentes entre la Nouvelle-Aquitaine, le centre et jusqu'à la Champagne. Les températures, elles vont remonter. Même demain matin, il y aura très peu de gelée, juste vraiment sur l'extrême nord-est. Moins 1 à Metz.
Ça, c'est quand même la vraie bonne nouvelle. Hein,
oui, exactement. Les températures qui remontent, exactement. Ouais. Moins 1 à Metz, Nancy et Strasbourg. On est loin des fortes gelées qu'on a eues ces trois derniers jours. 1 degré à Caen, 4 à Paris, 5 à Marseille, 8 à Bordeaux et 10 à Biarritz. C'est dans l'après-midi de la douceur même. Hein. Et quasiment pour tout le monde, de 22 degrés à Bordeaux, à 14 au Havre, 21 à Auch, 20 degrés à Cognac et Clermont-Ferrand, 19 à Strasbourg, 18 à Tours, Dijon et Paris.
Sinon, le printemps, c'est quand?
On y est, non?
Ah oui, c'est ça, ouais. Printemps théorique. Merci. Mais beaucoup. Oui.